Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonsoir. À l'heure où plus de 400 000 Rohingyas ont fui au Bangladesh, un rassemblement de soutien à ces musulmans birmans persécutés dans leur pays s'est tenu cet après-midi à Paris. En première ligne, Amnesty International qui vient de publier une nouvelle enquête sur les attaques de Rangoon. Explication de Nina Walsh, coordinatrice de l'ONG en France, au début de ce journal. Le Parti communiste va-t-il réussir à garder son groupe à l'occasion du renouvellement des sénateurs la semaine prochaine? Alors que la fête de l'humanité bat son plein, l'incertitude demeure. Analyse à suivre de Stéphane Robert. Plusieurs centaines de policiers et leurs compagnes ont manifesté partout en France cet après-midi. Plus d'un an après le début d'un vaste mouvement de grogne, ils dénoncent toujours le manque de moyens. Reportage de Marie-Christine Loriol dans un instant. Enfin, les bassins près de la pyramide du Louvre remplis d'encre de sèche. Animation singulière à l'occasion des journées du patrimoine. Elle est signée du collectif Libérons le Louvre pour dénoncer Total, entreprise mécène. Nous entendrons l'une des militantes de ce collectif. Le seuil des 400 000 réfugiés Rohingyas au Bangladesh vient d'être franchi, annonce de l'ONU qui consacre une large place à la minorité musulmane réprimée en Birmanie lors de son assemblée générale, assemblée qui a démarré cette semaine. La première ministre du Bangladesh est d'ailleurs en train d'arriver à New York pour alerter la communauté internationale et demander de l'aide d'urgence. Les organisations de défense des droits de l'homme sont aussi particulièrement vigilantes. Les ONG qui se sont mobilisées ce midi, place du Trocadéro à Paris. Ces trois dernières semaines, les violences se sont intensifiées, comme le révèle une nouvelle enquête d'Amnesty International. Enquête que nous résume Nina Walsh, la coordinatrice crise et armée de l'association en France.
Les enquêtes que nous avons menées via d'images satellites et des témoignages, nous avons pu corroborer encore une fois qu'il s'agit vraiment d'attaques délibérées, planifiées. C'est quelque chose d'une très grande ampleur et systématique, c'est-à-dire le mode opératoire est toujours le même. L'armée va encercler les villages, va tirer sur les villageois qui vont fuir en panique et par la suite, il va incendier les villages, les maisons, etc. C'est ce que nous avons donc pu corroborer avec ces images satellites qui montrent très clairement la destruction des villages et des maisons. Il y a aussi une autre information que nous avons récoltée, c'est que très très souvent, l'administrateur des villages sont informés en amont par l'armée qu'elle va brûler les villages. Donc ça montre encore une fois le caractère vraiment prémédité et délibéré de ces attaques-là. Donc c'est pas ponctuel et c'est pas par hasard. Et par la suite, il y a aussi le fait que nous avons trouvé que dans les villages et dans les zones urbaines, il y a uniquement les maisons Rohingyas qui sont brûlées. Les maisons qui sont à côté, qui sont de la majorité ethnique de l'État Rakhine, ne sont pas touchés. Donc voilà, tout ça montre une persécution très ciblée de ce peuple.
Des propos recueillis par Sarah Petitbon. À Londres, au lendemain de l'attentat djihadiste dans le métro qui a fait 29 blessés, une perquisition est en cours à Sunbury, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale. Et ce matin, c'est un jeune homme de 18 ans qui a été arrêté à Douvres, une interpellation qui a été qualifiée d'importante par la police. En Syrie, l'armée russe dément avoir visé les Kurdes des FDS dans la province de Deir ez-Zor, des bombardements qui ont blessé 6 combattants de cette force d'appui à la coalition internationale ce matin. Et puis en Irak, les forces gouvernementales de Bagdad disent avoir repris la totalité d'Akasha dans l'ouest du pays, dans la prévision de la bataille de Qaïm, fief des djihadistes dans le désert. La loi d'habilitation qui autorise le gouvernement à réformer le code du travail par ordonnance a beau avoir été publiée ce matin au journal officiel. À la fête de l'humanité organisée tout ce week-end à la Courneuve en Seine-Saint-Denis, le Parti communiste ambitionne d'amplifier la riposte à la politique menée par Emmanuel Macron. 600 000 personnes sont attendues pour les concerts et pour débattre des choix économiques du pays ce week-end. Mais la question, c'est aussi de savoir si le PCF pourra conserver un groupe parlementaire au Sénat. Le renouvellement au Palais du Luxembourg aura lieu dimanche prochain. Les communistes, qui ont actuellement 18 sénateurs, devront en garder au moins 10 pour faire un groupe, Stéphane Robert.
Le Parti communiste va perdre des sièges au Sénat, ça c'est une certitude. Parce que les sénateurs sont élus au suffrage indirect par un collège de grands électeurs. que ce collège est constitué à 95% de représentants des conseils municipaux et que les communistes, aux dernières élections municipales, ont encore perdu des plumes, même s'ils ont conservé quelques bastions, notamment dans la grande couronne parisienne, le Blanc-Mesnil, Villejuif, Saint-Ouen, Bobigny ou encore Aulnay-sous-Bois. Et puis les communistes vont également être victimes d'une double peine à l'occasion de ce scrutin, car bien souvent, leurs victoires électorales étaient la conséquence d'une alliance à gauche avec le Parti socialiste. Or, en 2014, au municipal, les socialistes aussi ont beaucoup perdu, 155 villes de plus de 9000 habitants. Et donc cette fois, le PC, à quelques exceptions près, n'a pas pu élaborer de stratégie d'alliance électorale. Pour ne rien arranger sur les 18 postes que les communistes détiennent encore au Sénat, 16 sont renouvelables. Conséquence de tout ça, il devrait pouvoir conserver le siège du premier secrétaire Pierre Laurent à Paris, 2 sièges dans le Val-de-Marne, 1 en Seine-Saint-Denis, 1 autre dans le département du Nord, 1 encore dans la Loire. Mais ailleurs, c'est très incertain, notamment en Meurthe-et-Moselle, dans le Morbihan, en Isère, dans le Pas-de-Calais où le Front National est de plus en plus implanté, notamment dans le bassin minier. Et puis c'est quasiment perdu à coup sûr en Essonne, dans le Val-d'Oise ou encore dans les Hauts-de-Seine. Si on fait les comptes, le Parti communiste réussira peut-être à conserver une dizaine de sièges de sénateurs et donc de quoi sauver le groupe au Sénat. Mais à 15 jours du scrutin, ça n'est pas totalement certain.
Analyse signée Stéphane Robert. Près d'un an après le déclenchement d'un mouvement de colère inédit chez les forces de l'ordre, 3 associations de policiers ont appelé à manifester aujourd'hui dans toute la France. Il y a un an, la mobilisation était partie d'une attaque au cocktail Molotov de plusieurs policiers à Viry-Châtillon en Essonne. Elle avait ensuite glissé sur le manque de moyens, toujours d'actualité dans les commissariats. Et depuis quelque temps, ce sont les femmes de policiers qui donnent le ton de ces manifestations, comme vous l'avez constaté, Marie-Christine Loriol, à Marseille.
T-shirt blanc, un bouquet de fleurs à la main, ce sont les femmes des forces de l'ordre en colère. Devant la mairie de Marseille, ses épouses, ses mères de famille sont venues faire part de leur exaspération au nom des policiers et des gendarmes tenus, eux, au devoir de réserve, comme l'explique Isabelle.
On est là pour crier notre ras-le-bol. Ils n'ont pas les moyens de travailler, ni les moyens humains, ni les moyens matériels. Et puis il y a cette haine anti-force de l'ordre qui grandit en France. Donc nous, on est là pour leur dire, tout le monde ne déteste pas les forces de l'ordre. Nous, on vous aime, on est là pour vous. Donc on ne parle pas en leur nom, mais on les soutient et on crie haut et fort les revendications qu'ils ont.
Manque de moyens et mauvaises conditions de travail, une banderole résume la situation. On a le cancer. Vous soignez la grippe. Et parmi les manifestants, un simple citoyen, Laurent, venu apporter son soutien.
Aidons-les à faire leur travail. Ce serait déjà un bon début. Parce qu'aujourd'hui, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont et c'est pas suffisant. C'est quand même notre sécurité qui est en jeu. Le lendemain des attentats, on les applaudit. Et après, on oublie. C'est tous les jours qu'il faut les applaudir.
Une manifestation qui n'a réuni qu'une 50aine de personnes. Le cortège s'est ensuite rendu à la préfecture.
Reportage de Marie-Christine Loriol à Marseille. 200 personnes ont également défilé à Paris dans le quartier des Invalides. Manifestation également à Toulouse, Bordeaux ou encore Strasbourg. Enfin, c'était une animation singulière à l'occasion des Journées du patrimoine. Ce matin, le collectif Libérons le Louvre a mené une performance artistique pour dénoncer le partenariat entre le groupe Total et le musée de la rue de Rivoli. 3 kilos de poudre d'encre de sèche ont été déversés par les militants dans les bassins à côté de la pyramide du Louvre. Une marée noire expérimentale pour interpeller sur le lobbying qu'exerce la compagnie pétrolière sur le musée. Total est en effet devenu le principal mécène de l'établissement culturel, ce qui pose problème au collectif. Caroline, l'une de ces militantes, explique pourquoi.
Ce qui nous gêne dans ce partenariat entre le Louvre et Total, c'est que Total se sert de l'image du Louvre, extrêmement prestigieuse, extrêmement visible à l'international, pour s'acheter une légitimité. Donc par exemple, ils vont pouvoir organiser des événements privés, recevoir l'ensemble de leurs partenaires économiques, faire un énorme travail de lobbying auprès des diplomates, auprès des fonctionnaires publics, auprès de la communauté internationale, dans un cadre extrêmement prestigieux. Or, le Louvre, c'est un établissement public, avec une mission d'intérêt général, et c'est complètement incompatible avec ce travail de greenwashing presque pour Total. Donc quand on dit greenwashing, en fait, c'est l'idée que Total, par son argent, par cette action de mécénat, se rachète une légitimité, se rachète une blancheur qui lui permet de continuer à exercer, alors qu'en fait, Total met complètement notre avenir commun en péril.
Une interview réalisée par Laure Verneau. La météo, demain matin, dimanche, temps lumineux au nord de Paris après dissipation des brumes matinales, franc soleil sur les Alpes et les bords de la Méditerranée. Partout ailleurs, le ciel sera nuageux et souvent pluvieux et les températures 12 à Cherbourg, 13 à Lille, Strasbourg, Bordeaux et Paris, 17 à Marseille et jusqu'à 20 degrés à Ajaccio. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau. À la technique, c'était Élise Le.